Bonjour à tous, bienvenue sur le 50e épisode de Comic City, épisode anniversaire.
Oui, youpi.
Attends, on voilà. est super motivés, t'as vu.
Ouais, c'est extraordinaire.
Je suis Steve, je suis avec Mr. René Bonny.
Oui, ou Monsieur René Bonny, voilà.
Oui, version française. À chaque fois, je me gaufre, hein, t'as remarqué.
Ouais, tu... Jamais le bon, ouais. hein, c'est terrible.
Jamais le bon. Jamais au bon moment. Donc c'est le 50e épisode. Alors on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu spécial. En fait, c'est surtout ça s'est déclaré un petit peu comme ça à l'arrache, bon, comme d'habitude quoi. Et vous comprendrez quand vous arriverez vers la fin du podcast le pourquoi du comment, puisque cet enregistrement ça a été épique quoi. C'est
tout oui. un enregistrement tout un assez particulier ouais. qui s'est fait dans l'ordre en fait.
Ouais complètement. Dans la loi et l'ordre. Donc, bah pour ce numéro, on va spoiler la surprise tout de suite. Des guests.
Ouais, des guests. Mais qui sont-ils ?
La réponse, tout à l'heure. Pour l'heure, on commence comme d'habitude avec les traditionnelles news plutôt orientées ciné ou DVD, etc. Mais aussi avec d'autres petites choses que tu nous as préparées, Bunny. Puisque c'est un numéro 50, on va essayer des petites choses.
Ouais, on va essayer des petites choses différentes. Alors, tu veux qu'on commence par quoi, du coup ?
On commence par les news ciné, enfin ciné, là ce sera plutôt du DVD direct, puisque sont sorties deux bandes annonces cette semaine concernant deux films d'animation dans les deux grandes maisons DC et Marvel. Le film d'animation qui va prendre la suite d'All-Star Superman, enfin qui sortira après All-Star Superman, c'est donc Green Lantern Emerald Knights,
qui
est prévu pour le 7 juin aux États-Unis en DVD, Blu-ray et machine à laver aussi.
Ouais. Exactement, oui, ils font la machine à laver, ça marche toujours.
Ils font des éditions machine à laver maintenant. Donc Green Lantern Emerald Knights, ça va être
Ça lave plus blanc que blanc, ou
non, plus vert,
ça fait
plus
toutes
vert
les couleurs
vert.
En fait.
Plus vert que vert, voilà.
Plus vert que vert, oui.
Ouais. Enfin. Oui, bah oui, pour la couleur. Quoi. C'est n'importe quoi, c'est décousu. Ouais. Comme l'enregistrement, c'est décousu. Donc dans ce long métrage, on va avoir en fait une histoire segmentée en 6 parties qui vont prendre 6 lanternes pas forcément très connues pour certains, les mettre un peu plus en lumière. C'est couplé à peu près avec la sortie du film pour donner un petit peu plus de visibilité et au film et au dessin animé.
Oui.
Ça va être un petit peu dans le même principe que Batman Gotham Knights. Qui était sorti entre Batman les deux Batman de
Christopher Nolan. Ah oui, oui. Ouais.
Voilà. Donc 6 histoires différentes mais qui apparemment auront toutes des liens les uns avec les autres. Les unes avec,
les autres même, je dirais oui.
Oui oui, puisque histoire c'est au féminin. Donc voilà, c'est il y a le trailer, on mettra le lien. Bon, c'est de l'animation je suis pas super fan du graphisme. Notamment la gueule d'Al Jordan quoi.
Comme le film, au suivant, ça va encore, je dirais, celui-là.
Oui. Oui, ça va, mais, je sais pas, c'est ce côté, animation, donc, on se sent obligé de faire du chara-design, à la japonaise, quoi.
Ça me gêne en tout cas, ça se la pète vraiment beaucoup avec la musique américaine qui va bien, Hollywood, et toute sa famille.
Ouais, non, puis bon, par contre, l'animation a l'air d'être plutôt pas mal. L'animation ouais. pure.
Reste à voir, parce que sur le principe de Gotham Knights, je suis pas fan du tout de ce principe. Bah, quoi.
Moi, j'avais pas aimé à cause justement du fait que c'était très trop japonisant à mon goût. Là, c'est quand même un peu moins le cas. Il y a un chara-design à l'oriental, bien sûr, comme dans tous les films d'animation quasiment aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça a l'air de plutôt pas mal. On verra lors de la sortie. Donc, c'est le 7 juin. Et apparemment, le méchant, quand on regarde la bande-annonce, ça a l'air d'être Krona.
D'accord.
Voilà. Krona, dont on reparlera sûrement pour le film, et puis plus tard.
Hein? Sûrement.
Voilà. On n'en dira pas plus. La deuxième bande-annonce de cette semaine, c'est le film d'animation Marvel, Thor, Tales of Asgard.
Oui.
Alors, bizarrement, DC sort un animation Green Lantern, comme par hasard, il y a un film, et Marvel sort en animation Thor, et comme par hasard, il y a un film.
Ah, oh, quelle surprise.
Comme c'est étrange. Quel sera le prochain Marvel ? Captain America ? En dessin animé ?
La jeunesse de Captain America.
Donc voilà, ça s'appelle Thor, Tales of Asgard, et là, c'est comme tu le dis, la jeunesse, puisque c'est vraiment la jeunesse de Thor, ça se passe sur Asgard, Thor vit des aventures extraordinaires avec son demi-frère Loki et tous ses potes qui l'accompagnent, comme Volstagg, etc.
Ouais, ça fait vachement Heroic Fantasy, et je te disais hors antenne que, au vu de la bande-annonce, si t'avais pas marqué Thor, moi, j'aurais même pas deviné forcément que c'était Thor, quoi.
C'est clair. Bon bah, Ça, là, il y a une animation, enfin, un chara-design encore plus japonisant que Green Lantern, je trouve. Faudra voir si c'est sympa ou pas. Je sais pas. Le fait de faire un truc sur la jeunesse de Thor avant même qu'il ait son marteau, etc., et qu'en plus on lui donne une espèce d'épée enflammée.
Moi, ça me fait penser au graphisme du Ultimate Spider-Man, justement, qu'on a en ce moment. Le dessin animé Thor, un petit peu. Du
Ouais, je
David
sais pas.
Lafuente, des choses comme ça, quoi.
J'ai pas vraiment fait attention à ça, en fait.
Parce que je trouve qu'il a un côté très manga, très japonisant, David Lafuente.
Donc en tout cas, c'est prévu en direct ou DVD, Blu-ray et là aussi machine à laver, ils font une édition spéciale.
Ouais.
Le 17 mai. Donc 2-3 semaines avant la sortie du Green Lantern.
D'accord. Et en français aussi?
Non, ça ce sont les sorties US. Alors pour les sorties françaises, je ne sais pas encore.
Mais les titres Marvel et DC sortent de toute façon au bout d'un moment en français, non?
Pour le moment, les titres DC ne sont pas tous sortis. Les titres Marvel ne sont pas tous sortis non plus, à ma
Ouais, c'est un petit
connaissance.
peu la
Mais il y en a
dose.
eu. Il y en a eu, hein, donc voilà.
D'accord.
Je pense que, en plus, avec l'exposition des films, ces deux titres-là devraient sortir relativement rapidement.
Ok.
Voilà. Donc, bah, c'est tout pour le ciné, DVD et compagnie. Pas grand news très importante cette semaine.
Non, 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 bah, on en aura justement à l'époque où les films sortiront.
Oui, ou peut-être dans les prochaines semaines, hein, d'autres trailers, d'autres annonces, des annonces pour les futurs films peut-être aussi.
Peut-être. On passe aux sorties françaises. Milady, peut-être, on va commencer par Milady. Alors, en mars, donc le mois prochain, nous allons avoir le cinquième volume, avant-dernier volume, je crois, de Scott Pilgrim.
Avant-dernier, oui.
Prix de 6,99€, donc ça reste vraiment très correct comme prix, hein. C'est
Ah,
vraiment.
c'est vraiment un peu cher, oui.
Ouais. Donc Scott Pilgrim, une série sympathique. Alors, je suis pas super fan de Scott Pilgrim, j'avoue, mais toi je sais que t'aimes bien.
Oui, enfin, j'ai plutôt bien aimé. Faut que je reprenne la lecture, comme j'ai toujours pas avancé depuis la dernière fois où on en a parlé.
Voilà. Et à ce prix-là, donc c'est au format, on va dire, bah encore une fois,
Bah, c'est au format manga.
oui, au format manga. Sauf que ça se lit dans le sens européen hein, quand même.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est un espèce de format bâtard et puis avec comment dire, un graphisme effectivement qui rappelle un peu le manga, quoi. Un peu beaucoup.
Ou un peu beaucoup, oui. On n'est pas au point d'Empowered, par exemple, d'Adam Warren, mais ça s'en rapproche quand même.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Empower d'ailleurs, qui le volume 4 est sorti ce mois-ci.
Bientôt fini aussi, puisque je crois qu'il n'y a que 5 volumes aux States.
Sans doute. Alors ça, par contre, je ne sais pas, mais en tout cas, le volume 4 est disponible. Donc, jetez-vous dessus si vous êtes fan également d'Empowered. On continue en mars avec Crossed numéro 1. Alors, Crossed, à la base, c'est une série de Garth Ennis. D'ailleurs, c'est la première série par Garth Ennis qui va sortir. Les dessins sont de Jadson Burroughs. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est une espèce de virus qui infecte les gens et qui les... Au lieu de les transformer en zombies, au fait, qui les transforme en gros fous psychopathes. Mais alors, quand je dis gros fous psychopathes, c'est de concours, quoi. C'est vraiment très trash, très gore. Ah bon, alors il y a eu des suites, pas par Garth Ennis, par d'autres auteurs,
Évidemment, David Lafemme.
notamment David Lafemme, exactement.
Qui écrit
Donc
aussi la deuxième suite, enfin la suite à la suite, quoi.
oui, voilà. Enfin, le troisième volume, peut-on dire.
Oui, voilà, tout
Voilà, tout
simplement.
simplement. Donc, bah, si ce premier volume remporte le succès, un succès qu'on lui souhaite, eh bien, on devrait avoir la suite chez Milady. En tout cas, le prix est à 12,90€, c'est au format un petit peu 100%.
Mais je crois que c'était mini en 7, si mes souvenirs sont bons.
Alors 7 pour 12,90€, c'est plutôt pas mal.
Mais je sais plus quel était le prix de No Hero.
Ou bien alors, est-ce qu'ils vont nous le couper en deux, la série?
Je ne sais pas, je ne sais pas. À moins que ah, c'était peut-être en 9, remarque Crost. J'ai un doute si c'était en 7 ou en 9, je n'ai pas vérifié.
Là, il fait 128 pages, hein. Donc,
Ah oui, non, non, non. Non, pas complète, je pense pas. Non, je
voilà.
crois que c'était en 9. Bref, à savoir que c'est publié chez Avatar, comme bah, comme No Hero, comme Black Summer, etc. Donc le label
De James
principalement
Cameron.
de non c'est le label de James Cameron. Ah mais oui, Joshua. Oh là
Oh là là! Oh
là.
là là, Steve aussi, il prend mes blagues.
Moi, j'y étais pas. Pardon.
T'y as cru en plus, hein.
Mais oui, mais sur le moment, j'y ai cru. Je me suis dit, bah, tiens, c'est une info que je ne savais pas. Non, non, c'est normalement, enfin, je sais pas s'il est CEO du label, mais en tout cas, c'est le label estampillé Warren Ellis, quoi.
Oui, voilà. Tiens.
Donc voilà. Attendez-vous à quelque chose dans le même style que Black Summer, No Hero, quelque chose de vraiment sanglant.
Ouais. On passe chez Delcourt avec le mois de mars. Sortiront Tony Chou volume 2, qu'on
La
attend avec
vache.
impatience.
Ah, oh, tu m'étonnes.
Vu la qualité du volume 1, et c'était passionnant. Donc, et aussi, alors là, Walking Dead, tome 13.
Ça,
Donc,
j'ai pas envie de le lire, hein, c'est une série que...
ouais, non, c'est une série pas terrible. On vous la déconseille fortement.
Non.
Mais juste pour vous embêter, on va quand même l'acheter et la chroniquer. Donc,
Obligatoire.
ce sera pour mars, le 16 mars. Et il y aura aussi, le même jour, Royal Space Force par Warren Ellis, justement. On en parlait à l'instant.
Je ne connais
Et Chris
pas.
Weston.
Je ne connais pas du tout. Jamais
Mais moi
entendu
non
parler.
plus. Moi non plus. Mais je découvre là, Royal Space Force. Alors,
Peut-être qu'on
qu'est-ce
parlera.
donc? Tiens, c'est du Warren Ellis en tout cas. Donc, bah écoute, on verra. On verra
Peut-être
si
en
ça tombe.
parlerons, ouais.
Peut-être en parler. On verra ça. En avril, on aura le 28 jours plus tard, volume 3. Donc on avait parlé, je crois, du premier volume.
Oui, on n'avait pas traité le deuxième parce qu'on avait un programme surchargé.
En mai, nous aurons Darkness, volume 3, donc la suite des aventures de... Comment il s'appelle? Escatado?
Jackie Estacado, je
Voilà,
crois.
Escatado.
J'espère que je l'ai dit dans le bon sens, hein.
Ouais, c'est pas grave. En
De
juin
Jackie, les
2011...
aventures de Jackie, on va dire.
Oui, voilà.
Qui n'est pas le compère de Dorothée.
Le spin-off de Witchblade, au fait. Hein. Voilà, tout simplement. En juin 2011, ce sera Le Fléau, volume 5. Alors, Le Fléau, adaptation comics du roman de Stephen King. Stephen King, dont on en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs. Et en juillet 2011, Phazom, volume 4. Donc, l'œuvre de Michael
Michael
Turner,
Turner,
si je ne dis pas de bêtises.
ouais. Je crois que sur le volume 4, je suis pas sûr que ce soit encore lui,
Ah
hein.
oui, non, non, mais bien sûr. Non, mais là, c'est
Mais
la création
c'est sa
de Michael
création, oui,
Turner.
bien sûr.
Donc, la surfeuse sexy qui a des maillots mouillés. Voilà, bien.
Oui, je ne pourrais pas dire plus puisque je ne connais pas la série, donc voilà.
Voilà, moi non plus je la connais pas trop, mais c'est pas grave, c'est des souvenirs des années 90.
C'est
Et
plutôt
bien,
2000, hein.
c'est tout.
Je
C'est
crois
tout
que c'est
pour
plutôt 2000, hein, quand même,
les
je crois.
sorties Delcourt et Milady.
Ah,
On va
y a du bon au
passer.
programme, hein, quand même. Il y a du bon à venir.
Ah oui, il y a du gros, il y a du bon. Et il y aura surtout des reviews qu'on va devoir faire. C'est encore du travail.
On dit ça comme si on était des pauvres martyrs.
Ouais, mais c'est un peu le
C'est
cas, hein.
le cas, c'est le cas. Allez, on passe à la petite première petite surprise de ta part.
Ouais, enfin, petite surprise, je sais pas, hein, s'il y a des fans de jeux vidéo dans la salle. L'ambiance est survoltée pour cette 50e émission
nous
avec un
n'avons
public de ouf.
pas bu, hein, je précise.
Non, même pas en plus. On est comme ça naturellement chez nous. Alors, Marvel vs Capcom 3 est sorti sur toutes les bonnes plateformes, dans toutes les bonnes crèmeries, donc notamment sur Xbox 360 et PlayStation 3. Marvel vs Capcom 3, c'est quoi? C'est un jeu de baston, de taré, avec donc d'un côté des personnages Capcom, bien sûr, et aussi des personnages Marvel.
Ah, c'est pour ça le nom en fait.
Ah
Ah.
oui. Non, mais moi je pensais que ça allait être avec les persos de DBZ, j'étais déçu en fait.
DBZ contre DC, quoi.
Bah ouais,
Ça ferait
j'ai pas compris.
DCBZ. C'est oui, c'est
Bref.
naze. C'est naze. Tu peux
Oh là
changer.
là. On va même la couper celle-là, tellement c'est pas bon.
Peut-être.
Donc, pourquoi je vous parle de ce jeu? Eh bien parce que le 2, c'était une tuerie, c'est l'un des meilleurs jeux de baston des années 90, Marvel vs Capcom 2. C'était une franche marade, il y avait 56 persos, je crois, au total. Et les combats étaient surdémesurés, c'était un gros délire. Alors, est-ce que Marvel vs Capcom 3 est aussi bon? Eh bien, déjà, plus de 10 ans après, les graphismes ont considérablement évolué, la technologie aussi. Donc,
C'est quand même mieux.
c'est très beau, mais par contre, le petit bémol, déjà d'emblée, c'est qu'il y a quand même moins de persos. Alors, tu vas rire parce qu'il y a quand même 32 persos jouables dès le début et 36 au total, parce qu'il y a 4 persos cachés. Donc, c'est déjà pas mal, au fait, 36 personnages pour un jeu de baston, alors que
Tu m'étonnes.
d'habitude, une vingtaine, c'est déjà suffisant, quoi, pour des jeux comme, bah, je vais citer Street Fighter 4 de Capcom également, qui avait, ouais, je pense, il devait y avoir en total une vingtaine de persos. 16, 17, 18, je sais plus. Mais alors là, 36 personnages quand même, parmi lesquels, alors, on va quand même en citer quelques-uns. Par exemple, chez Capcom, on retrouve les héros de Resident Evil, Chris et Wesker, par exemple. Il y a du Chun-Li, du Ryu pour les personnages de Street Fighter. Il y a aussi, alors, très drôle, Beautiful Joe. Je sais pas si tu connais ce jeu,
bien
Capcom.
Sûr, mais, ouais, bien
voilà.
Sûr.
Il y en a pas mal. Il y a Dante de Devil May Cry aussi. Et du côté Marvel, alors là, il y a du très bon, il y a du très lourd, il y a du Wolverine, qui était déjà dans Marvel vs. Capcom 2, mais il y a aussi Thor, Captain America, Magneto, Iron Man, il y a Deadpool, qui est très drôle, complètement délirant à jouer, MODOK, alors pareil, vraiment une grosse surprise, jouer avec MODOK, c'est assez fun, et comme personnage caché, par exemple, chez Marvel, on peut citer le Taskmaster, donc le maître des corvées en français. Pas mal de monde, Docteur Doom également. Alors, dans les Marvel vs Capcom, on peut au fait s'affronter, enfin c'est le but d'ailleurs, s'affronter en équipe. En fait, on sélectionne chacun trois personnages. Et du coup, bien souvent, on a le droit à des attaques combinées des deux ou trois personnages qu'on contrôle. Et ça donne lieu à des trucs absolument gigantesques, qui crèvent l'écran, quoi, littéralement. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils ont appelé ça les crossover attaques. Donc voilà, les fans de comics apprécieront. Il y a aussi certaines prises qui s'appellent les Facteurs X. Donc voilà, ce genre de truc, c'est assez marrant. Les décors aussi, alors les décors sont somptueux. Il y a des animations à tout péter. Par exemple, il y a une salle qui représente le hélicarrier du Shield, où t'as des avions qui volent de partout, ça bombarde dans tous les sens. Du coup, tu peux même t'arrêter de jouer et juste regarder ce qui se passe dans le décor, tellement il y a des trucs hallucinants. T'as un décor d'Eli Buggle, t'as Asgard aussi, qui est vraiment somptueux avec des chevaux volants.
Normal.
Voilà, normal. Enfin, c'est Asgard des bateaux.
Les chevaux des Valkyries, quoi.
Oui, et des bateaux aussi. Des bateaux qui volent. Ça, c'est peut-être moins commun, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super beau. Alors, les personnages s'affrontent généralement sur un plan, on va dire 2D, c'est-à-dire ils sont modélisés, tout est en 3D, mais ils restent sur un plan 2D, et puis après, quand tu fais des super attaques, ça bouge dans tous les sens, tu les vois de face, de côté, enfin voilà, quoi. C'est vachement dynamique, c'est super fun. Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors bon, la durée de vie, c'est vrai, de ce type de jeu est assez limitée. Là, les bonus sont assez faciles à...
Assez limité en solo, en tout cas.
C'est limité en solo, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment le type de jeu qui se joue entre amis, lors de soirées. On ne s'en lasse pas, c'est vraiment super fun. On peut y jouer une demi-heure, une heure, et vraiment bien se marrer, quoi. C'est un truc vraiment à sortir avec les potes. Ce qui est marrant aussi avec la Xbox 360 qu'on ne pouvait pas faire avec les consoles d'ancienne génération, c'est que tu peux mettre les musiques que tu veux. Donc tu peux jouer en écoutant, enfin tu peux jouer au jeu en mettant je pense, ce que tu veux. Tu peux mettre tes musiques de métal, Steve, par exemple, en explosant la tronche de l'adversaire avec Deadpool.
Ce qui correspond bien de toute façon.
Exactement. Alors il y a aussi des répliques très drôles, par exemple, t'as une salle aussi que j'ai pas nommée, c'est la salle de Ghosts and Goblins, d'ailleurs.
Ghouls and Ghosts, en fait.
Ghouls and Ghosts, voilà, dans le bon ordre et avec les bons termes.
Avec Ghouls and Goblins, qui était le premier titre.
Voilà, qui était un jeu de plateforme super dur de Capcom. d'ailleurs, oh, parmi les personnages jouables, il y a le Prince Arthur de ce jeu.
Qui avec son armure qui pète.
Et je sais pas.
Finit-il en caleçon? C'est la grande question.
Peut-être. Peut-être qu'il y a moyen qu'il finisse en caleçon, mais en tout cas, il est super fun à jouer. Et à un moment donné, donc je joue avec Deadpool dans cette salle-là, une fois que j'ai battu l'adversaire, t'as Deadpool qui commençait à se tourner vers la caméra et à l'agiter, et à dire, voilà, ça t'apprendra à me faire jouer à des jeux de plateforme impossible à terminer. Comme ça. Ça me fait marrer, quoi. Il y a vraiment plein de références.
Pour ceux qui se rappellent de ce jeu, effectivement.
Ouais. Ou bien alors, à un moment, il disait aussi qu'il attendait la sortie d'un jeu Capcom, alors c'était la suite d'un jeu aussi pareil qui devait dater des années 80 et qui n'a jamais eu de suite et voilà quoi. Donc il y a plein de références, plein de petits gags comme ça tout au long du jeu, plein de petits clins d'œil. Il y a la salle par exemple Resident Evil où t'es dans un espèce de labo avec des monstres partout. Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Les fans de Capcom et de Marvel seront aux anges parce que il y a plein de choses comme ça quoi. Vraiment c'est vraiment très fun. Bon, bah c'est typiquement le jeu d'arcade, quoi. C'est le jeu voilà, qui se joue surtout à plusieurs et qui s'apprécie de temps à autre, quoi. C'est pas un jeu auquel tu vas jouer forcément tous les jours, évidemment.
D'accord.
En tout cas, pour une fois qu'on a un jeu avec des personnages Marvel qui est bien fun, bah voilà, c'était bien d'en parler. Et franchement, pour moi, c'est un bail.
Voilà, mais j'allais te demander, à la manière d'un weekly, est-ce un bail, un check-it ou un pass?
C'est un bail, ce jeu. Alors, évidemment, nouveau jeu, les prix consoles sont quand même toujours assez élevés, hein, les jeux
consoles. Puisqu'il est sorti de mémoire le 18 février. Hein.
Voilà, il faut compter une 60aine d'euros, sauf si vous avez la chance déjà de le trouver en occasion. Certaines personnes, peut-être, qui n'auraient pas aimé, apprécié ce type de jeu.
Ou qui en ont déjà fait le tour et qui s'en sont lassés. Ça arrive aussi.
Ouais. Enfin bon, moi pour moi en tout cas c'est un jeu à ressortir, voilà, de temps à autre, vraiment y jouer avec des amis, se faire des parties comme ça, c'est toujours sympa. Juste un dernier truc.
Ça peut être aussi un bon moyen avec sa copine, celui qui perd va faire la vaisselle.
Ouais, et en plus.
Plutôt que le traditionnel pile ou face.
Le pire de tout dans ce type de jeu, c'est que en appuyant sur tous les boutons comme un taré, tu peux gagner, alors même que t'es débutant. D'ailleurs,
ça sent vécu ça. Hein
oui, voilà. Il y a un système de jeu d'ailleurs qui est fait pour les débutants et pour les experts, etc. Tout est assez modifiable et paramétrable d'ailleurs. Voilà, c'est le terme. Et je voulais préciser aussi que comme c'est sur console nouvelle génération, il y aura aussi bientôt du contenu, j'imagine, du contenu téléchargeable qui devrait arriver. Alors. Toi, t'avais un petit coup de gueule l'autre fois, tu me disais.
Non, mais oui, bon, on en parlait en off, mais je trouve que sortir des jeux uniquement pour proposer du contenu téléchargeable, c'est un petit peu limite comme technique de vente, quoi, parce que c'est moyen de se faire un peu plus de pognon. On peut sortir. À l'époque, on sortait des jeux vachement plus complets, quoi.
Ouais.
Et avec aujourd'hui, on sort des jeux qui sont à peine terminés, et on te dit, bah, il y aura du contenu téléchargeable, alors tu paieras 5, 6, 10 euros pour avoir un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Alors que ça leur aurait pas coûté de mettre ça en plus dans le jeu, sachant que rarement les galettes des jeux sont pleines, quoi.
Exactement,
très,
ouais.
Très rarement.
Tout à fait. Avant, on avait effectivement, quand tu terminais le jeu, t'avais plein de bonus. Maintenant, t'en as juste quelques-uns, et pour avoir vraiment tous les bonus du jeu, eh bien, t'es obligé de les acheter sur le Xbox Live ou le PlayStation Store.
Ah, on a les traditionnels jeux de bagnole avec les voitures en plus, les Guitar Hero ou Rock Band où on a les chansons en plus. Enfin voilà quoi, tout est prétexte à te faire cracher un peu plus de fric. C'est une industrie, c'est logique qu'ils essaient de faire de l'argent. Mais je pense qu'il ferait bien de peut-être soigner un peu plus leur jeu plutôt que les sortir très vite et nous proposer des DLC ensuite.
Bon alors après voilà. Ça dépend des jeux. En tout cas celui-là est quand même vraiment pas mal. Voilà. Donc petit test de jeu vidéo une fois n'est pas coutume. Enfin petit test. Petit review on va dire. De ce jeu il y aura encore énormément de choses à dire. Là j'ai même pas le paddle en main. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en parler comme ça sans y jouer en plus.
À froid ouais voilà.
À froid. Ben, et on va peut-être passer au review.
Eh bien,
on va
passer au review et on va changer totalement d'univers puisqu'on va commencer par du DC avec le Batman Universe numéro 5. Deux arcs dans ce mag. Mag d'ailleurs qui est passé à 120 pages.
Qui est passé à 120 pages et donc le prix a été augmenté à 5,60.
Voilà. Qui propose donc maintenant 5 épisodes de Batman.
Mais oui, mais 5 épisodes, ce qui reste un bon rapport qualité-prix par rapport à la VO de toute façon.
On n'atteint pas encore le super rapport qualité-prix du Marvel Universe dont on parle juste après, mais on s'en approche,
on va voir si les histoires justement valent le coup ou pas. Donc on commence avec Batman et Robin.
Ouais, numéro 5 et 6, Grant Morrison au scénario, Philippe Tan au dessin, Jonathan Glapion à l'ancrage. C'est la suite et fin de l'arc entamé dans le dernier numéro, le retour de Red Hood, accompagné de son sidekick, son Robin à lui, en la personne de Scarlett, la petite gamine qu'on avait vue dans le premier arc, torturée, on va dire, par le professeur Pig.
Oui, torturée et torturée, puisqu'elle est très torturée comme personnage.
Donc là, il y a cette confrontation entre Batman et Robin d'un côté et Red Hood et Scarlett de l'autre, pour essayer de défendre la vie du pingouin.
Oui.
Voilà,
c'est un peu cliché, le coup des versions méchantes, méchantes. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants, en fait, Scarlett et Red Hood, quoi? Puisque eux ont l'air de dire qu'ils sont aussi là pour...
Ils veulent éliminer le crime, mais en tuant. C'est-à-dire que pas de seconde chance.
Exactement. Alors,
c'est
ouais,
l'éternel débat du... C'est l'éternel débat, par exemple, entre un Spider-Man et un Punisher, quoi.
Oui.
Voilà. C'est... Bon, maintenant, c'est pas... Je sais pas, je trouve que la confrontation est assez petite.
Bah, déjà, la manière dont Grant Morrison a d'écrire Jason Todd, je suis pas particulièrement fan. Je préférais l'écriture de Winnick sur le personnage. Là, je le trouve un peu fatigué, Jason Todd. Alors d'accord, il y a une mèche blanche, mais c'est pas de ça dont je parle.
Voilà, la mèche blanche, il explique qu'elle est venue à cause du Lazarus Pit, enfin
exactement,
le puits de Lazare. Puis il a repris sa teinture originale, enfin sa couleur de cheveux originale rousse. C'était dans les cheveux pour ressembler à Dick Grayson, que c'était Batman qui lui avait fait, etc.
Mais je le trouve un peu fatigué dans le sens où il semble moins combatif qu'avant.
Il se fait laminer la gueule, hein, franchement.
Il se fait laminer, franchement, il est pas impressionnant, quoi, le Red Hood, là. Il est pas au meilleur de sa forme. Et Scarlett.
Ouais.
Et Scarlett, oui, moi j'allais dire juste que je trouve assez ridicule toujours ce personnage-là. D'accord, ok, bon, ses origines, elle a été traumatisée, etc. Mais ça n'explique pas pourquoi elle devient super balèze. En quoi
En si peu de temps, surtout.
En si peu de temps, oui, voilà, ça. En quoi le fait d'être traumatisée, d'accord, rend fou, bon, ok. Mais pourquoi ça la rendrait capable d'être une espèce de pseudo-Robin? C'est pas possible, ça.
On peut expliquer... son changement d'attitude et son changement de comportement, enfin notamment sa combativité, par le fait qu'elle a tellement l'impression d'avoir déjà tout perdu qu'elle n'a plus rien à perdre, donc elle se lance à corps perdu dans la bataille, quoi.
Tu peux te lancer à corps perdu dans la bataille quand t'es une gamine comme ça, tu peux pas sauter de toi en toi comme un Robin.
En même temps, qui casse, quoi.
Voilà. Mais justement, quoi. C'est peut-être pour ça que je suis pas fan de ce personnage-là. Ça me rappelle peut-être la nana de Kick-Ass, que je trouvais déjà ridicule.
Peut-être un peu. Là.
Mais enfin voilà. Là.
Il y a deux autres choses dont on n'a pas parlé quand même, c'est que cette tuerie de Jason Todd et Scarlett, enfin de Red Hood et Scarlett, a attiré un espèce de serial killer sud-américain. Je me rappelle plus de quel pays, nommé El Flamingo. Donc le flamant rose. Alors personnage.
Bah,
particulier, soi-disant super balèze.
Enfin,
franchement, je sais pas ce qu'a voulu montrer Grant Morrison avec ça.
Il fait que des personnages qui ont l'air assez perturbés, assez dérangés, mais qui au final sont pas super intéressants. Enfin, moi je trouve sont pas super intéressants. Le personnage peut-être qui a le plus de potentiel, c'est celui dont tu as sans doute parlé.
Oui, Oberon Sexton, ce fameux. Ancien écrivain anglais qui est devenu une sorte de détective.
Mais alors, est-ce qu'il tombe comme un cheveu sur la soupe? Est-ce qu'il arrive comme ça dans l'épisode créé par Morrison, ou c'est encore une vieille
On le voit apparaître là à l'occasion d'un reportage, enfin d'une émission télévisée où il est interviewé, etc. Et je crois en ayant lu un petit peu par-ci par-là des choses sur Internet que il était apparu déjà dans les premiers épisodes lors d'une manifestation qui avait eu, enfin, une espèce de dîner gala charité ou je sais plus quoi, et qu'il était passé, qui s'était déjà présenté, mais je crois que c'est un nouveau personnage.
D'accord. Okay. Donc des épisodes, franchement, une fois de plus, qui m'ont déçu.
Ouais, décevant. Aussi, pour moi, c'est décevant. Même si j'aime bien le style de Philippe Tan, ça sauve pas, quoi. Je m'en.
Alors, Panini, dans sa postface, qui nous dit que effectivement, pour eux en tout cas, le style de Philippe Tan n'est pas du tout adapté à Batman, et qu'on conviendra tous ou un truc dans le genre que c'est pas terrible, quoi.
Ah ouais. Bon, chacun ses goûts, moi.
Mais ce que j'aime bien, c'est que Panini, voilà, estime que bon, non.
Mais en tout cas, j'ai préféré Philippe Tan, par exemple, sur l'arc Orange Lantern qu'on avait eu dans Green Lantern, justement.
Ah oui, non, mais c'était bien plus travaillé.
C'était agent orange, d'ailleurs.
Je pense qu'il a passé beaucoup plus de temps dessus. Ouais. Là, il a dû rusher, parce qu'à la fin, je reconnaissais même plus son style, d'ailleurs.
Donc voilà, bon, un peu décevant. Passons à la petite pépite, quand même, de ce numéro, l'arc de Batman 692 à 694.
La grosse surprise, surtout.
Oui, complètement.
Puisque au scénario, on retrouve...
Tony Daniel, scénario et dessin. Et Sandou Florea à l'ancrage. Alors Tony Daniel, c'est pas son premier essai de scénario, hein, il avait fait des séries chez Image, il nous avait fait plus récemment, notamment sur l'univers de Batman, Battle for the Carl, et c'était quand même relativement décevant.
C'était pas terrible, et puis la manière dont il avait d'écrire était... c'était un peu lourd, c'était pas génial. Et là, d'un seul coup, même dès les premières pages, franchement, c'était bien écrit, quoi. Je suis tout de suite rentré dedans.
Alors, l'arc n'est pas complet, il manque une partie, on l'aura du mois.
Ah bah, je pense même qu'il manque plus que ça,
en fait. C'est un arc en 4. C'était un arc en 4, hein, si mes souvenirs sont bons.
Ah bon, d'accord.
Alors, je pense qu'il y a, il y a un besoin de certaines explications. Alors peut-être que Panini l'a fait dans ses préfaces et postfaces, je sais pas, mais Tony Daniel a fait quelque chose de très très intéressant. Il a mêlé toutes les histoires actuelles du Bat Universe dans son arc. Notamment, on voit Tommy Elliot, etc. Bon, on en reparle tout à l'heure, donc il va falloir qu'on explique un peu plus pour ceux qui ne suivraient pas Batman, enfin les autres séries que l'on n'a pas en VF, justement.
Ouais.
En gros, l'histoire, Batman traque un espèce de groupe voilà, qui travaille pour Black Mask, qui s'appelle les False Faces, donc je pense qu'ils ont dû appeler ça les faux visages. Ou les,
exactement, ouais.
Quelque chose comme ça, qui portent tous des masques à gaz, qui ne parlent pas, qui sont tous moitié décérébrés, bizarrement. On leur a trafiqué l'esprit. Et de son côté, lui, Black Mask a fondé un espèce de club de scientifiques avec dedans Hugo Strange.
Oui, quand même. Le Docteur Strange de Batman, donc qui est quand même un ennemi assez connu, assez classique, mais aussi d'anciens ennemis qui reviennent sur le devant de la scène. Et là, déjà, bravo Tony Daniel de nous avoir replacé ces méchants-là. Donc on retrouve par exemple Docteur Death, dont je parlais il y a quelques comics weekly de ça, je crois. Puisque c'était le premier gros ennemi de Batman. Mm-hmm. Donc un ennemi vraiment classique. On retrouve aussi le Faucheur.
Et The Reaper, et puis on a Linda Fritz.
Voilà.
Il y a ce Ministry of Science, c'est comme ça qu'il l'a appelé en tout cas, qui travaille pour Black Mask, qui font des expériences sur le contrôle mental et le fait de guérir les fous, etc.
Ouais.
On ne sait pas trop où ça va. Et on a un deuxième groupe en fait, en dehors de cette rivalité avec le Pingouin, Two-Face et puis Black Mask, on a comme encore un autre groupe. Et là, bravo à Tony Daniel d'avoir rendu dans la continuité, comme on dit en anglais, rendu canon, Long Halloween et Dark Victory, puisqu'il va nous rechercher les membres de la famille Falcon.
Ouais, et ça, bonne surprise aussi de revoir des membres de la famille Falcon. Et on a même droit à un historique, au fait, de ce qui s'est passé durant Dark Halloween,
Long Halloween et
Dark Victory. Ouais. Voilà. Et c'était bien pensé, en plus c'est bien amené, bien écrit, et donc on trouve un membre de la famille Falcon, je sais plus, Mario Falcon.
Mario, oui.
Mario, et sans Luigi. Et surtout, il y a cette espèce de jeune fille de la famille Falcon.
Oui, qui s'appelle Kitrina.
Voilà, Kitrina, qui est au cœur aussi de l'intrigue, qui est peut-être amenée à jouer un rôle important dans les histoires de Tony Daniel, mais on en parlera plus amplement plus tard, je pense.
Donc là, c'est là qu'il y aura besoin de quelques explications. Alors, le nouveau district attorney, donc le procureur général de la ville, c'est Kate Spencer, alias Mindhunter, que l'on voit passer. On voit aussi Tommy Elliot et on nous parle de Bruce Wayne. Alors, c'est là que peut-être une explication de Panini.
On voit surtout Bruce Wayne et on nous parle de Tommy Elliot.
Oui, voilà. Alors, il faut savoir que Tommy Elliot s'est fait refaire le visage de Bruce Wayne. En fait, il a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à Bruce Wayne.
Oui, et pour prendre sa place aux yeux des gens, aux yeux du commun des mortels, quoi. Et c'est-à-dire que dans les épisodes de Batman Streets of Gotham que nous n'avons pas malheureusement en français, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'on aura le droit un jour à un big book, je ne sais pas. Il a pris la place de Bruce Wayne et au fait, pour embêter Dick, Alfred, etc., il dilapide en plus l'argent de Bruce en se faisant passer pour lui.
Et donc là, dans ce numéro, il a complètement financé le nouvel asile d'Arkham.
Voilà, par exemple.
Qui va réouvrir ses portes et justement, il y a toute une soirée qui est donnée en l'honneur de la réouverture de cette nouvelle asile d'Arkham.
Et cette scène est géniale. Parce qu'en plus, on a une espèce de... Comment dire de, bah, il y a l'apparition de d'Huntress, en fait, qui vient aussi se rajouter à l'action. Et bah, il y a peut-être encore cette relation entre Dick Grayson et puis Elena, hein, je crois qu'elle s'appelle.
Oui, Elena, oui.
Qui va peut-être reprendre de plus belle, sous l'œil un petit peu jaloux de Barbara Gordon, ouais, qui est là aussi. Donc il y a vraiment énormément de personnages de l'univers de Batman qu'on retrouve à travers cet arc.
Il y a une scène aussi, moi, que j'ai trouvé magnifique, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est ce Black Mask, qui est d'ailleurs complètement ouf, hein. Je veux dire, on a l'impression de voir un autre Two-Face, le mec se parle à lui-même avec un changement de lettrage, changement total de personnalité, et il va à cette soirée, et donc il y va pas avec le masque de Black Mask, bien évidemment, il va avec son vrai visage, et on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on voit dans les cases par ses yeux, et on se rend compte qu'il est, qu'il a beaucoup de connexions, puisqu'il connaît Kate Spencer, il connaît Commissaire Gordon, il connaît le maire de Gotham, Donc il y a de fortes chances que ce soit un personnage que l'on connaisse bien.
Ouais.
Mais on ne sait pas qui c'est, car tout est vu en vision la première personne. Et ça, c'est énormément bien
fait. Et si j'ai bonne mémoire, on aura la réponse de son identité dans 2 mois.
D'accord.
Voilà. Et bah oui, bah c'est très bon. En tout cas, ces 3 épisodes...
C'est une très très bonne surprise. Franchement, je m'attendais à dire peut-être pas de la merde, mais en tout cas quelque chose qui est relativement passable. Et ben là, j'ai pris une bonne claque.
Ouais, je m'attendais à un magazine décevant, moi, le Batman Universe. Parce que je savais que Morrison, j'avais pas forcément aimé, je savais pas sur quel pied danser. Et puis là, Tony Daniel, je m'attendais à rien. Après les épisodes de Winnick, qui étaient plutôt pas mal. Hein,
ah oui, qui était très bon.
Et bah, la série Batman continue de plus belle. Et pour moi, c'est l'une des meilleures séries aussi, parce qu'on est vraiment dans Gotham, c'est vraiment du Batman. Il y a de l'enquête aussi.
Oui, parce qu'il y a cette enquête. Et puis il nous montre un Dick Grayson qui a vraiment appris beaucoup de choses de Bruce, notamment avec ce petit gamin là, Baby D, à qui il soutire des informations, qui est le seul qui veut lui donner des informations, qui se prend une balle et il se sent totalement responsable. Et il se propose de quand il sortira de l'hôpital, de lui financer son université, de financer ses études, enfin de le remettre sur la bonne voie et pas forcément, enfin qu'il arrête de traîner avec les gamins et qu'il traîne et qu'il se gâche quoi.
Avec Bobo.
Oui, d'accord, je viens de comprendre. Oui.
Très bien.
Donc voilà.
Référence ultime.
Donc non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, c'est très intéressant. C'est très complexe aussi, puisque il y a des trahisons, il y a tout ça. Voilà, c'est sympathique. Le petit point noir, à la rigueur, pour moi, c'est le pingouin qui ne sert pas à grand chose et qui brouille plus les pistes qu'autre chose. Qui m'a en fait franchement saoulé, quoi.
Bah, le pingouin apparemment est lié avec la fameuse Kitrina.
Bien sûr, non, mais puis bon, il y a toute cette histoire de rivalité entre Black Mask, Pingouin et Two-Face depuis le départ de Battle for the Carol, quoi. Mais voilà, bon, le Pingouin me gave un peu, quoi. Je l'ai trouvé un petit peu faiblard, l'interprétation de Tony Daniel.
Ouais. Bon, enfin, faudra voir où ça nous mène tout ça. En tout cas, très bonne surprise, donc bon magazine.
Très très bon magazine, ouais. Enfin très très bon. Enfin bon magazine en tout cas. Bon Batman et Robin, un peu moins bon, mais.
Bah, quand même 3 épisodes sur 5 qui sont à dévorer.
Voilà.
Du bon Batman. Donc on va passer à peut-être autre chose.
Bah on va rester dans l'univers de DC et puis on
et
va rester sur du Batman avec le DC Heroes numéro 3. 2.
1, 0. C'est parti, on y va.
Je ne sais plus. 2 mini-séries donc au programme. La première, c'est Blackest Night Batman en 3 épisodes. Peter Tomasi au scénario, Ardian Sayaf au dessin et John Dell et Vicente Cifuentes à l'ancrage. Ce sont des mini-séries qui explorent un petit peu ce qui se passe autour des personnages qui sont mis en avant dans Blackest Night, puisque on sait bien, le gros event de Blackest Night touche tout l'univers DC. Et donc on voit la réaction de certains personnages et leur rencontre avec des Black Lanterns.
Bon, on voit surtout les personnages principaux confrontés justement aux Black Lanterns. Et c'est pas étonnant que DC nous ait sorti une mini Batman, une mini Superman, une mini Trucmuche, machin chose. Alors, généralement, ils ont fait autour des titres les plus importants.
Ouais, les titres principaux et... Quoique, il y a quand même un titre qui n'est pas forcément un des titres principaux. On a JSA, par exemple.
Oh, si, quand même. Justice Society. Non, mais par exemple, ils t'auront pas fait un truc Sinister Six.
Non. Oui, enfin, Secret Six.
Secret Six, non. En même temps.
Non, mais il y a eu des tie-in dans la série même.
Oui, mais c'est pas pareil.
Donc, de toute façon, des tie-in, on n'aura pas en français.
Exactement. Bon, alors...
Alors, dans la mini-série Batman, eh bien, on a les tombes des Wayne qui sont vandalisées, Martha, Thomas, et puis celle de Bruce, puisque Bruce est mort.
Et on a volé le crâne.
Mais ils n'ont pas été ressuscités en Black Lanterns, cependant. Et on a de l'autre côté Deadman, qui est donc un personnage fantôme. Il est mort, il est devenu un fantôme, et il peut posséder les gens. Personne ne peut le voir, en fait, ni l'entendre, sauf quand il possède les gens, et il peut interagir avec leur corps à ce moment-là.
Voilà, un personnage qu'on est appelé à revoir. D'ailleurs.
Oui, et puis un personnage qui côtoie déjà l'univers de Batman, puisqu'il a déjà rencontré Batman.
Tout à fait, lors d'une mini-série, je crois, écrite par Steve Niles, si je dis pas de bêtises.
Oui, et puis il l'avait rencontré aussi, je crois, dans la série principale, à l'époque, Dogmunch, Killer Jones.
Ouais, ça c'est sûr, oui, tout à fait. Et non, mais en tout cas, la mini-série à laquelle je pense, avec Deadman, qui est sorti chez Panini il y a quelques années, était vraiment pas mal. Donc en tout cas, je la conseille, si vous la retrouvez.
Moi, je ne l'ai pas lu, celle-ci. Donc Deadman, les bagues noires vont chercher son corps, et du coup, il se retrouve Black Lantern, alors que lui est toujours vivant, en quelque sorte. D'où le paradoxe, quoi.
Oui.
Et en essayant de fusionner avec son propre corps et d'en prendre le contrôle, il apprend beaucoup de choses sur les Black Lantern. Donc peut-être que le salut viendra de lui ou pas. De leur côté, pour la partie vraiment Batman, on a donc Dick Grayson sous le costume de Batman, accompagné de Robin.
Oui,
le petit con là, Damian.
Voilà.
Putain, j'arrivais pas à me rappeler son nom à ce moment. Ils sont confrontés à tout un tas d'anciens ennemis de Batman qui reviennent à la vie, donc parmi eux le ventriloquiste est accompagné de Scarface, ou encore Blockbuster, qui a une grosse histoire avec
Dick Grayson. Robin. Oui, avec Dick Grayson, ouais. Et McPie.
Oui, aussi, oui. Enfin voilà, il y a pas mal de personnages qui refont surface, qui attaquent le commissariat de Gordon, en fait, avec Barbara à l'intérieur. Donc tout ce joyeux petit monde essaye de s'en sortir, mais comment combattre des zombies, tout simplement, qui se reconstituent dès qu'on
comment
les
tuer des morts.
Les voilà. Donc voilà, c'est un petit peu l'enjeu, et puis bien sûr, les parents de Dick Grayson ainsi que ceux de Tim Drake reviennent à la vie. Voilà. Bon, c'est la mini-série est relativement moyenne, je trouve.
On a Red Robin aussi.
Oui, on a Red Robin, oui. On n'a pas en français, donc.
Qui fait une apparition, enfin plus qu'une apparition, il participe activement à cette mini. C'est vrai que c'est très moyen, moi ça m'a fait penser à des mini liés à Secret Invasion, où grosso modo tu voyais des super-héros affronter des Skrulls sans qu'il y ait d'autres réels intérêts, quoi.
Ben là, l'intérêt c'est de les confronter à leur passé, mais c'est bizarre parce que pourtant c'est écrit par Peter Tomasi, qui donc est un habitué de l'univers Green Lantern. Puisque c'est lui qui écrit Green Lantern Corps, qui est pourtant très bon, mais là...
C'est le problème des mini-séries qui sont vraiment des travails de commande à chaque fois.
Donc voilà, bon, moi j'ai pas été emballé par cette série. On a aussi un petit guest star avec la personne d'un autre habitué de Batman, un autre personnage que l'on ne voit pas très très souvent dans les pages de Batman, mais qui est passé quand même. On tuera son nom, on vous laissera découvrir tout ça.
Oui.
On passe à la deuxième mini-série du numéro, Blackest Night Titans, 3 épisodes là aussi, hein, comme toutes les mini-séries Blackest Night, écrite par J.T. Krull, avec Ed Benes au dessin, Rob Hunter, John Sibal et J.P. Meyer à l'ancrage. Et donc là encore, on prend un peu le même thème, on confronte les Titans avec leur passé, et notamment donc des personnes chères qui ont disparu. Donc on a notamment Terra, alors... Ça remonte. Là, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu l'histoire des Titans dans cette mini-série pour pas être trop perdu. Terra qui travaillait pour Destro, qui a trahi les Titans. Voilà. Enfin, c'est la grande époque, quoi.
On comprend quand même assez vite.
On arrive à comprendre, bien sûr, mais c'est vrai que je pense pour l'apprécier un peu plus cette mini-série, il faut avoir lu un petit peu Titans ou connaître. On peut arriver à comprendre, mais c'est un plus, quoi. On a aussi donc toute la famille de Donna Troy, enfin toute la famille, son bébé et son mari qui sont morts dans un accident de voiture. On a les anciens Hawk and Dove qui sont présents aussi. Voilà, donc tout ce joyeux petit monde est bien sûr ramené à la vie, sauf Dove, justement, car il est en paix.
Car il est dans le jury de la nouvelle star.
Oh, c'est nul.
En fait, d'accord.
C'est tout pourri, c'est tout pourri.
Oui, bon.
C'est vraiment tout pourri. Donc voilà, on les confronte à leur passé, alors... J'ai trouvé cette mini-série meilleure que celle de Batman.
Ah bon ?
Ah oui, nettement.
D'accord.
Bah, c'est peut-être pas ton cas.
Moi, je sais pas. Moi, je dirais que c'est... Les deux, je les place à peu près au même niveau, honnêtement. J.T. Krull, je pense, est plus inspiré sur... quand on voit qu'il fait Green Arrow.
Oui, en ce moment aux États-Unis.
Ouais, Green Arrow, je sais
sûrement,
pas.
Si français, sûrement jamais en français, mais bon, c'est pas grave.
Bah ouais. Très bonne série en tout cas. Non là.
Mais je trouve la mini en
fait.
C'est
pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus foncièrement transcendant, quoi.
Non, il y a quand même un gros élément qui fera partie vraiment de. Enfin, qui aura vraiment une importance dans Blackest Night, ce qui se trouve dans cette mini. Beaucoup plus. Quelque chose de beaucoup plus important que dans la mini-série Batman d'ailleurs.
Ouais.
On va pas vous le spoiler. Moi, j'ai trouvé que cette mini était vachement plus plus hard que celle de Batman, puisqu'on voit vraiment les Titans mis à rude épreuve en confrontant leur passé. Et les Black Lanterns m'ont l'air beaucoup plus sadiques que dans cette mini, en tout cas, que dans celle écrite par Peter Tomasi sur
Ouais.
Batman.
Ouais, et bah tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux épisodes de Necrochat dans New Mutants.
Bah, de toute façon, la
C'est bah oui,
comparaison.
de toute façon c'est le même thème, hein. C'est vraiment les jeunes, pas les jeunes mutants, mais les jeunes héros qui sont confrontés à leur passé et à leurs camarades décédés, quoi.
On a cette confrontation entre Gar, donc Changeline, et puis Terra, quoi, qui voilà, quelque chose qui était resté vraiment très longtemps dans l'histoire des deux personnages. On a Donna face à sa famille, on a Dove face à l'ancien Hawk, et puis va, y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, voilà, comme je dis, il faut connaître un petit peu l'univers des Titans, je pense, pour un peu plus l'apprécier. Mais la mini peut se lire, même si on connaît pas, on
Ouais,
arrive à comprendre, quoi.
même si on connaît pas, ouais, c'est peut-être même l'occasion de s'intéresser au New, non, c'est pas les New Teen Titans, d'ailleurs, c'est les Teen
Si,
Titans,
Teen
quoi.
Titans. Voilà. Donc bah un mag relativement sympathique, notamment par son prix aussi, puisque je crois que c'est 5,60 € pour 6 épisodes.
Ouais, ça va encore, ça va
Ça va
encore.
encore.
Cela dit, bon, l'intérêt, enfin, je veux dire, c'est pas un must-buy, quoi. On peut s'en passer. On peut très bien lire DC Universe et skipper celui-là et comprendre l'essentiel de Blackest Night.
À ne pas rater par contre le prochain numéro qui sera celle avec Superman qui est très très bonne.
Qui ne sort qu'en mai.
Qui ne sort qu'en mai, bah, dans 2 mois.
3 mois.
Oui, 3 mois, excuse-moi, j'ai très très mal compté.
C'est irrégulier, hein, de toute façon, d'ici
Mais
mois.
oui, c'est tous les 3 mois puisque c'est un irrégulier. Voilà, ils peuvent pas faire autrement. Bien.
Bah l'autre a 2 mois, je crois, le premier.
Non, il y a 3 mois, c'était Flash Reverse.
C'était il y a 3 mois déjà?
Et oui, c'était sorti en novembre.
Ah vous? À l'époque du LCF. Ah
Et
ouais.
oui, et oui.
Je croyais qu'on l'avait fait en décembre, Flash Rebirth.
Non, non.
Ah bon.
Il était prévu pour octobre, il a été retardé d'un mois. Il est sorti en novembre.
Ah bah c'est ça par exemple.
Bien, donc bon bah voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus sur Blackest Night, sautez dessus. Si vos finances sont un peu serrées, bah vous pouvez zapper, quoi.
Ouais, non, non, c'est pas forcément utile. Si vous appréciez vraiment Blackest Night, bah écoutez, tentez-le, hein, mais on peut très bien s'en passer.
Et on accueille pour le dernier kiosque de la quinzaine notre premier guest,
Oui.
Sam.
Salut.
Comment vas-tu,
On allait te
Sam?
chercher très loin dans l'espace.
Ouais.
Voilà, on fait une petite place
Comment vas-tu,
pour un
Sam?
gros numéro de Marvel Universe.
À bord du vaisseau Comic City, dans la machine à
Qui
DD, quoi.
arrivera peut-être à destination.
Un jour. Ou pas.
Voilà.
Ça va bien, Sam?
Ça va, ça va. Et vous alors? Pas trop
Bon.
crevé là, ça va?
En plein enregistrement, super décousu.
Voilà.
Vous comprendrez à la fin du Comic City, comme toujours.
Voilà.
Donc, bah, on va attaquer, c'est le Marvel Universe numéro 25. Beaucoup de choses au programme, on commence tout de suite avec les deux premiers épisodes, c'est le Guardians of the Galaxy numéro 18-19, au scénario Dan Abnett et Andy Lanning, comme bah,
Ben
tout
pour tout en fait,
son,
hein.
pour tout, hein, voilà.
Oui.
Et c'est Wesley Craig qui se charge de la partie graphique. Donc, ben, ces deux épisodes où l'on retrouve ben, ceux qui ont disparu dans le temps à la fin de
La fin du temps,
War
en
of
fait, ils
Kings,
étaient.
qui avait envoyé le message pour prévenir que la faille, c'était fallait l'éviter, fallait éviter la guerre, et on savait pas trop ce qu'il devenait d'eux à la fin, on avait l'impression qu'ils mouraient.
Oui, on avait l'impression qu'il disparaissait un peu à la fin du temps, dans une espèce de truc un peu bizarre. On savait pas trop s'il s'en sortait ou pas. Donc. Bonne nouvelle, ils s'en sortent, mais pas indemne.
Ils ont tous des séquelles, hein. Il y a des problèmes dans le temps et ils sautent de réalité alternative en réalité alternative. Et à
Dans
chaque
la
fois,
même
il leur
idée.
arrive des trucs.
En fait, ils reviennent en 3009. Sauf que toutes les 5 minutes, l'année 3009 change. Donc c'est un peu chiant.
Alors, on retrouve des personnages comme Kilraven.
Dans
Magique.
une version toute barbue.
Ouais, une version gros Savage. Puis bon, des personnages des Gardiens de la Galaxie, première époque aussi.
Ouais, comme
Que je connaissais
27,
pas
je
du
sais plus
tout,
comment il
donc
s'appelle.
Oui, Charlie 27.
Charlie
Charlie
27.
27, Nikki, Hollywood. On retrouve Starhawk.
Oui, encore.
Encore, oui.
Et il y a eu un changement graphique aussi, hein, précisons-le, puisque.
Bah oui,
Bah oui.
Wesley Craig au dessin.
Oui, parce que ça change totalement avec les épisodes précédents.
Alors je sais pas si c'est que pour cet arc ou si c'est s'il sera pour sur la suite de la série, j'ai pas vérifié. En tout cas, moi ça m'a pas vraiment déplu, puisque en même temps ça se passe tellement à part que
C'est
le
tellement
changement.
déjanté surtout que...
Ouais. Bah, parce qu'on a quand même un Peter Quill qui est tout vieux. Jack Flag qui disparaît petit à petit du temps. On a un Cosmo redevenu un petit chiot
Voilà.
qui m'a fait mourir de rire.
Tu vas aller jouer au parc avec les écureuils.
On a l'autre là, celle qui est verte, qui redevient un bébé.
Oui, Mantis.
Voilà, Mantis. Je veux toujours son
Celle qui
nom.
est verte, il y en avait deux, hein. Il y a Gamora aussi.
Voilà. Bug qui redevient un ado.
Enfin, voilà quoi, ils sont tous perturbés par les problèmes de temps. Ils vont rencontrer un ennemi, ben voilà, que généralement que l'on rencontre quand il y a des problèmes de temps chez Marvel.
Voilà. On se spoilera pas trop, mais...
Qui fait la pluie et le beau temps chez Marvel aussi. Et non, puis oui, enfin, il y en a deux, au fait. Il y a une machine, quand on parle de machine à voyager dans le temps, on pense à l'un de ces personnages-là, mais c'est pas lui, c'est l'autre, au fait, qu'il rencontre.
Tu m'as perdu là.
Oui, à moi aussi. Déjà que moi je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé pas l'histoire simple en fait. Je trouvais ça
Bah, l'histoire
un
est
peu confus.
super confuse. Et
Voilà.
c'est-à-dire qu'à un moment, on peut le dire, c'est pas vraiment du spoil, il parle de la machine à voyager dans le temps créée par Docteur Doom, par Fatalis.
Voilà.
Et
Ah, c'était
c'est
lui que
pas
tu
lui
parlais.
qu'on voit, c'est un
Ah
autre.
oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas compris. D'accord, je voyais
Oui.
pas de qui tu parlais au début. Ok, merci. Merci de
Parce
cet
que
éclairage.
je pensais qu'il allait apparaître au fait, et c'est pas lui.
Mais il pouvait pas, il était occupé dans X-Factor.
Oui, il n'avait pas le temps.
Oh, magnifique. Donc,
Tu l'as noté avant, hein, pour le spécialement pour celle-là, c'est ça?
Oui, je pense que là.
Donc, du coup, vont-ils revenir à leur époque? Et puis, quelles seront les pertes dans l'équipe? Car il va y avoir des pertes, et pas des moindres.
Pas comme peu, ouais.
Ça dézingue bien. On va pas parler du final, même si je le trouve un peu con, quoi.
Pas super compréhensible. On sait qu'il meurt, et puis d'un coup, voilà, c'est un peu bizarre, moi, je trouve, comme final. À suivre dans le prochain épisode pour voir si vous explique un peu ça de manière un peu plus claire.
Ah bah la série s'est arrêtée là, c'est fini.
Non, mais
Qu'en
ça sera bientôt
ira-t-il?
25, donc on a encore 4 épisodes.
Non, non, mais je
5,
plaisantais.
6 même. 6.
Mais ouais, parce qu'on est en 19.
Je plaisantais.
Ouais, bah puis que va-t-il rester de l'équipe, surtout? Allez, on passe à l'épisode suivant, c'est le Realm of Kings, tout court, un one-shot. DNA au scénario, bien sûr. Leonardo Manco au dessin, accompagné de Mahmoud Asrar. Et
Bon, d'ailleurs, différence de style, hein.
oui, déjà, oui. Et donc dans
Notamment
cet
dans la coupe de
épisode.
cheveux de Quasar. Qui une page a les cheveux longs, la page suivante a les cheveux courts.
Ah mais c'est normal. C'est tout à fait normal.
Ah, ça, je ne savais pas.
Ah oui, bon, alors, on va y venir. En fait, Khazar part explorer cette faille qui s'est créée à la fin de War of Kings, histoire d'avoir des infos un petit peu sur ce qu'il y a dedans, quoi. Puisque Nova avait été attaquée par des créatures, etc. On revoit, j'allais dire Star Labs, c'est pas Star Labs, c'est Projet Pegasus, qui reprend un petit peu d'importance. Et donc, Khazar s'enfonce et tombe sur une terre alternative à
Oui.
l'autre bout de la faille.
Bien craignos, hein, la terre alternative, quand
Bien
même.
craignos. Et en fait,
Il a failli à sa mission.
je vais spoiler légèrement, mais en gros, il prend la place du Khazar de cet univers. Pendant que le Khazar de notre
L'autre
univers.
explore, en fait, ils font un... il y a des, en
Voilà.
fait, ils
C'est
font
pour ça.
des
D'où le
actions
changement.
parallèles entre les deux univers.
Voilà. D'où le changement de coupe de cheveux. C'est parce qu'il est dans le corps du quasar de cet univers-là.
Ah, d'accord.
C'est pour ça.
Ah, c'est pas ce que j'ai compris. Notamment à cause du twist final, que je ne révélerai pas. Ça a
Si,
été
justement.
obligé. Ça va un peu... on va spoiler, là.
Non, non, enfin non, mais justement, si, c'est tout à fait ça, en fait.
C'est pas très clair, ça, hein, je trouve.
Moi, ça m'a paru clair d'entrée de jeu, quoi.
Ah, j'ai un
Après,
peu de
bon.
mal, mais tu vois, j'ai pas capté ça.
Ah, c'est peut-être la traduction française aussi, hein. C'est peut-être ça qui joue. De cet univers, c'est véritablement des dieux Lovecraftiens qui régissent cet univers. Et dans cet univers, le est-ce qu'on le dit ou pas?
Ah,
Oui.
qui est la pieuvre?
Non, ce qui s'y passe surtout.
Bah, disons que ce monde a été, on va dire, corrompu. On va le dire comme ça, et les héros auxquels on est habitué ne sont plus vraiment des héros.
Des magnifiques versions déformées. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super bon, quoi.
Ouais. Bah, Leonardo Manco, quand même, au dessin, Enfin, j'aime toujours ce qu'il fait en général. Mais là, il a pas démérité, je trouve.
Ouais, non, c'est super beau et l'épisode est vraiment pas mal. Mais alors, est-ce que c'est un one shot ou est-ce qu'il y a une suite?
C'est un one shot qui lance tout cet event, enfin en tout cas cette bannière qu'il va y avoir sur les productions du Marvel Universe pendant les prochains mois, Realm of Kings.
D'accord. Mmh. Et alors les séries qu'on a ensuite là avec la Garde Impériale et puis les Inhumains, c'est aussi des one shots?
Non, ça, ce sont des mini.
Ah d'accord. C'est compliqué à suivre parce qu'en fait il n'y a pas de mini Realm of Kings tout court.
Non.
Non, c'est plutôt un bandeau.
Là, c'est vraiment un bandeau, ouais. C'est Dark Reign, c'est Heroic Age.
D'accord, ok.
Grosso modo, c'est ça, quoi.
Ok, ok.
C'est le nouveau statu quo qu'on partage toutes les séries, en fait, et que les différentes séries vont explorer au fil des mois.
Tiens, j'étais en train de me dire, ça n'a rien à voir, mais quand même, peut-être que ce sera le cas. La fameuse série Chaos War, peut-être l'aurons-nous dans...
Marvel Universe, du coup. Oui, ça a été annoncé.
Ah,
d'accord. Bon. Ah bah tiens, je ne savais pas. Parce que de toute façon, il va falloir le boucher, le Marvel Universe, puisque la production du Marvel Universe aux États-Unis est mise en hiatus.
Mm-hmm.
Il reste plus qu'une seule mini-série, enfin une seule série en fait à chaque fois. Et c'est plutôt des mini d'ailleurs. Donc on n'a plus autant de séries, quoi. Donc il va bien falloir trouver quelque chose pour boucher Marvel Universe.
Donc en fait, on aura Chaos Wars en fin d'année et en février. Et on aura ensuite Thanos Imperativo.
Oui, et moi qui l'ai lu, ça promet du grand.
Mmh.
On va passer à l'épisode suivant, c'est le Realm of Kings Imperial Guard numéro 1, donc sur 5, puisque ce sont des mini-séries en 5, avec donc Kevin Walker au dessin. Et là, c'est Gladiator qui doit s'ajuster à sa fonction de Magestor, maintenant de l'Empire Shi'ar. Et puis, bah voilà, quoi, c'est pas forcément facile de passer de quelqu'un qui est... quelqu'un qui va au front constamment à quelqu'un qui s'assoit sur un trône et qui donne des ordres.
Sachant que son entourage est quasiment aussi dangereux que ce qu'il affronte. Voilà, parce qu'il y a pas mal de complots en fait autour de lui. On a une base qui commence à se poser là dans cet épisode. Oui. Notamment en lien avec
War of Kings, quoi.
Voilà.
Voilà, on va pas dire qui, quoi, mais voilà. Non, si vous avez lu War of Kings, c'est plutôt facile de deviner.
Ouais. Disons qu'il y a un élément qui continue à se développer. Qu'on avait commencé à voir dans War of Kings, qui a eu des conséquences importantes durant le crossover et qui continue à se développer là.
Et puis l'épisode se lit assez rapidement, c'est pas extrêmement passionnant, je dois dire. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Benny, par exemple, de cet épisode.
Ouais, non, mais effectivement les réactions, il se passe pas grand chose quoi. C'est surtout les réactions des personnages suite à la disparition de Lilandra.
Ouais. Et puis nous présenter cette nouvelle garde impériale sans Gladiator en commande, quoi.
Mmh.
Grosso modo.
Et la fin m'a pas tellement surpris non plus, quoi.
Et ben, la fin, moi, m'a donné envie de lire la suite, par contre, puisqu'il va envoyer deux de ses membres de la garde impériale explorer la faille avec quand même deux de leurs anciens ennemis jurés cette garde impériale. Et comment ça va se passer, voilà.
Ouais, enfin, les choses sérieuses vont commencer à partir du second numéro, quoi, visiblement.
Voilà. C'était juste pour poser les bases. Donc, ouais. Un épisode qui est sympathique, mais qui n'est pas transcendant.
Quoi. Ouais.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Disons que le truc, c'est qu'il y a une grosse baston au début qui bouffe 10-12 pages, donc...
Ah ouais, la moitié. Hein.
Voilà, donc... Non, sympathique, mais sans plus.
On passe au suivant, c'est Realm of Kings Inhumans, numéro 1 sur 5, là encore. Et donc là, cette fois-ci, c'est Pablo Raimondi au dessin, avec Andrew Hennessy à l'ancrage. On voit comment les Inhumains gèrent leur nouveau statut de grand chef de la galaxie.
Mmh.
On va dire ça comme ça, puisque ils sont toujours donc chef de l'Empire Kree, bien évidemment, mais...
Et il reste plus qu'en fait que l'Empire Kree qui est debout, donc...
Voilà, ils gèrent aussi...
Voilà,
ils gèrent l'Empire Shi'ar, ils ont mis Gladiator aux commandes, mais voilà... On essaie d'imposer une sorte de paix intergalactique et ils tentent de remettre en place les gouvernements pour que tout s'apaise en fait, qu'il n'y ait pas de révolte. Et on voit Blastar qui essaye de conquérir des planètes supplémentaires malgré qu'il lui a offert tout un terrain de jeu en quelque sorte dans notre univers.
Ils lui ont concédé des territoires anciennement créés, donc je crois que c'était les anciens territoires de Vermine en fait à la base.
Ah, peut-être.
En fait, qu'ils l'ont refilé, donc... Mais je crois qu'il y a quand même la planète Hala qui est leur ancien... leur monde trône d'origine, donc... historiquement, je pense que ça doit quand même leur faire mal. Hein.
les pertes de guerre, comme on dit.
Voilà.
Bah, on a Médusa qui est toujours en deuil. Et,
beaucoup plus cynique, quand même, là, je le trouve.
Ouais. Franchement casse-couille.
Légèrement.
Voilà, c'est... Bon, ok, elle a perdu son mari, tout ça, mais voilà, voilà, quoi.
Comme la moitié de la galaxie. Hein. Voilà. On voit quand même la différence, c'est-à-dire que ça la gêne pas trop d'envoyer les autres à la mort. Par contre, dès que c'est son mari, ah oui, mais là, c'est pas pareil. Hein.
Moi, je sais pas. Enfin, moi, j'ai préféré cet épisode-là à celui de Imperial Guard. Je trouve qu'il s'y passe vachement plus de trucs. Il y a de l'action, mais il y a aussi toute une base politique qui se met en place, une grosse intrigue politique sur les jeux de pouvoir, la médiatisation, et notamment celle de Gorgon, qui gagne les faveurs du public en défendant les mondes des attaques de Blastar. Peut-être un possible changement du pouvoir chez les Inhumains, puisque Karnak voit que Gorgon monte petit à petit dans la faveur du public, quoi. Et peut-être que le public aura envie que Gorgon devienne le nouveau chef. Donc il y a tout ça qui se met en place, et puis on a un final complètement fou.
Ouais.
Qui avait été totalement éventé il y a quelques mois, puisque les séries Marvel Universe ont énormément de retard.
Ouais. Ah, ça je ne savais pas. Parce que ça m'a surpris, je connaissais pas cet élément, donc dans le mois suivant.
Voilà, bon. À l'époque, dans la série Mighty Avengers, on voyait au début d'un arc les Mighty Avengers avec les Inhumains, et ils avaient fait quelque chose, ils avaient gagné, et c'est là que Quicksilver disait à tout le monde non, mais en fait c'était pas moi, c'était un Skrull.
D'accord. Non, ça explique, ceci explique cela, étant donné que...
Ouais, c'était il y a vraiment longtemps, hein. Quand on dit ça, c'est sûr que c'est un bail.
Surtout que j'ai pas suivi la série Mighty Avengers, j'ai pas du tout accroché, donc...
Et donc, du coup, dû à ce décalage qu'il y a entre les parutions Marvel Universe et les parutions du reste de l'univers Marvel...
Et surtout qu'Hercule a disparu.
Oui, depuis, Hercule a disparu, enfin voilà, c'est pas...
Il a disparu l'été dernier dans une parution Panini, donc là, le voir maintenant, ouais, ça prouve que ça fait un bail. Hein.
Voilà, et c'était au mois de... mai-juin, quelque chose comme ça.
Juillet, je crois. Juillet-août.
La mort d'Hercule, oui, mais je parle de cet épisode-là, ça devait être mai-juin.
Ah, plusieurs plus tôt, oui.
Donc voilà, ça fait vraiment un bon moment, ça fait quasiment un an qu'on avait vu cette scène, et donc voilà, c'est normal. C'est normal qu'on les voit débarquer. Enfin, en tout cas, on le savait déjà, quoi.
Ouais, un petit peu éventé, mais enfin, en même temps, moi, je m'en souvenais plus, donc ça m'a surpris quand même.
Voilà, il y a eu tellement de temps entre les deux que... En même moi, quand j'avais pas suivi, voilà. Il y a que toi, Steve, qui a pas été surpris.
Dans le Mighty, on nous expliquait pas trop ce qui s'était passé. On sait qu'ils avaient combattu ensemble, qu'ils avaient vaincu la menace, mais c'est tout. Donc, on va voir quelle menace ça va être dans cette série. Voilà. Bon, on termine le mag par Nova numéro 31, au dessin Andrea Di Vito. Donc Nova est à la poursuite de Darkhawk sur une planète qui va être engloutie par la faille, qui est sur le point d'exploser, et donc Darkhawk qui est toujours recherché pour l'assassinat de Lilandra, puisque tout le monde croit que c'est lui qui a tué Lilandra.
Donc un épisode un peu sympa, hein, dans l'ensemble, pas, il se passe pas grand chose quand même, parce que voilà, Nova retrouve Darkwing et
Darkhawk.
Voilà, je me mêle un peu les pinceaux entre les persos. Mais...
Darkwing Duck, c'est pas le même.
C'est pas le même, ouais.
Voir le truc aujourd'hui, ça marche.
Enfin, il aurait sa place dans les Gardiens de la Galaxie, lui.
Oh, complètement. Ça dénoterait pas d'un Rocket Raccoon ou d'un Groot. Ouais.
Quoi. Bon, Marvel.
Sait-on jamais avec Marvel et Disney maintenant.
Voilà. Mickey. Mickey avec.
Ah bah, Howard the Duck pourrait s'en trouver un jour.
Ah, ce serait une super addition au Gardien de la Galaxie.
Ouais.
Il ne vaut plus qu'un petit costume de Nova Corps et c'est bon.
D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'ait pas eu cette idée. Ou bien alors, il ne l'aime pas.
Peut-être. Ou peut-être qu'on n'aura pas accordé non plus.
Je sais pas, War the Duck, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, donc...
Il aurait fallu en poser la question, en fait. En même temps, nous ne les avons jamais rencontrés. J'aime bien parler comme ça. Ça veut rien dire. Bon,
peut-être un jour.
Oui, un jour peut-être.
On a une superbe scène de l'entraînement des cadets par le centurion Philo.
Ouais.
Qui est magnifique. Je trouve cette scène mais magnifique. Le mec qui montre comment utiliser le champ de force et même Nova qui fait style ouais moi c'est bon j'ai le World Mind avec moi, j'ai la Nova Force. Il en apprend une belle là et ça le On le voit bien, ça le calme. J'ai trouvé cette scène super bien réalisée, quoi. Super drôle. Avec le super instructeur. Enfin, le mec me fait vraiment, vraiment, vraiment penser à Kilowog.
Mais il a été créé sur cette base, hein, vraiment.
C'est volontaire, c'est clair, c'est volontaire. Ouais. Mais voilà, les similitudes avec...
avec le Nova Corps, avec
le Green Lantern Corps, c'est monstrueux. Voilà.
Il suffit juste qu'il les appelle encore Poozer et c'est bon. Hein. Là, c'est bon, on aura tout. Hein.
Ouais, c'est clair. Voilà, moi, j'ai bien aimé cet épisode. Enfin, j'aime bien la série Nova dans l'ensemble.
Ah oui, oui, hein. Franchement.
Et puis, j'aime bien les dessins d'Andrea Di Vito.
Idem.
Il y a un côté très cartoon. Je sais que toi, t'es pas fan, Bunny.
Un peu moins, ouais. Moyen, quoi. Moyen, j'en raffole pas. Je préfère quand on avait dans la revue du Paul Pelletier, ce genre de choses, ou bien alors le mec qui a dessiné.
C'était Brad Walker. C'était Brad.
Non, Brad Walker.
Ouais, Brad Walker avant.
Ah oui, bah alors là, Brad Walker, j'adore. En tout cas, ce qu'il fait sur Heroes for Hire, en plus, c'est encore mieux.
Ouais.
Puis bon, on a ce final.
Mm-hmm. Ce qui est pas mal du tout.
Ce final explosif, dirais-je.
Ça, sans spoiler, mais. Voilà, donc Nova va-t-il s'en sortir ?
Avec le retour encore d'un ennemi qu'on a déjà pu voir dans War of Kings.
Okay. Perso, j'espère quand même qu'ils vont essayer de faire avancer cette intrigue-là.
Sur Dark Oak, oui.
Ouais, parce que ça traîne un peu, on n'a pas beaucoup d'éléments pour le moment sur le pourquoi du comment ils font ce qu'ils font, en fait.
C'est bien, je trouve, d'avoir été recherché un personnage comme Dark Oak, totalement oublié, qui en plus a... un lien quand même avec Nova, puisque bah ils ont partagé pendant un bon moment l'équipe des New Warriors, mais nous avoir ajouté toute une mythologie, ça donne beaucoup plus de profondeur au personnage, mais le problème c'est qu'il va falloir l'exploiter parce que là ça commence à devenir longué, quoi.
Non, mais il y avait eu toute une mini-série Dark Oak qu'on n'a pas chroniqué puisqu'on n'avait pas fait le Marvel Universe correspondant,
qui était sympa, mais
pas... Moi, je l'ai trouvé un peu petite, quoi.
Moi j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais voilà, maintenant j'aimerais bien avoir des réponses.
Oui, moi aussi. Donc, bah, ça reste un très bon Marvel Universe. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à le lire une fois de plus, quoi.
On pourrait ajouter, comme d'habitude.
Ouais, voilà, comme d'habitude. Il y a des choses un peu moins bonnes, c'est sûr.
C'est un peu irrégulier sur certains épisodes. L'Imperium Guard est un peu
moins bon, quoi. C'est clair. Mais ça reste super bon, quoi. Enfin,
ça reste super bon et ça reste à 5,60€. Et c'est pratiquement. Épisodes. Bon, ouais, c'est pratiquement à 100% à chaque fois, quoi.
Guardians et Nova tiennent le haut du panier, comme d'habitude. Puis, moi, j'ai bien aimé le One Shot Realm of Kings, avec la découverte de ce camp de servers.
Ouais. Ah, c'était vraiment pas mal. En tout cas, voilà, encore un bon numéro, et décidément, 25 numéros déjà qui, à part peut-être le 6, qui était, la saga, je sais plus, Beyond, je sais plus quoi, là.
Beyond, qui était, écrite par Dwayne McDuffie, d'ailleurs.
Ah ouais,
mais c'était le 7, okay. Ça, il me semble.
C'était peut-être... Ah non, c'était dans la série, le truc avec Topco.
D'accord. Je ne l'ai pas, donc je te fais confiance.
Ouais, donc à part ça, qui était un peu en dessous, et un peu à part, surtout. Franchement, ça reste vraiment un titre excellent.
Et bien, après avoir fait tout un moment sur Dwayne McDuffie, voilà, tu le descends maintenant, bravo.
Ah, écoute, Beyond...
Je ne l'ai pas lu, donc je peux pas dire.
Beyond, oui, c'était... Mais de toute façon, ça rentrait vraiment pas dans l'intrigue. On peut tout à fait skipper ça, c'est vraiment à part.
Complètement, c'est une mini-série à part.
Ouais.
Totalement à part.
Alors que le reste est vraiment important, quand même. Tout ce qui a été publié à côté, quoi. Dans les autres numéros. Voilà.
Donc, bah, que dire. Très bon Marvel Universe.
Achetez-le,
ouais. Suivez. Bon, honnêtement, c'est peut-être un peu plus compliqué si on n'a pas suivi War of Kings, là.
Ouais. Là, c'est un peu plus dur. Bah, ouais. Ça dépend, en fait, comme il y a des débuts de mini, ça peut être intéressant pour les gens qui connaissent pas, voilà, de commencer avec ces débuts-là de mini-série. Par contre, les épisodes de Guardian, là, ça va être beaucoup plus dur à suivre.
Ouais, c'est super chaud, quoi. Alors, je sais pas si Panini a fait un bon résumé ou pas de la situation en intro.
Un peu, oui, mais sans s'étendre beaucoup.
D'accord. Donc
c'est en page de garde, hein, comme d'habitude.
Oui, bien sûr. Bah, nouveau lecteur.
Non, vraiment, les épisodes de Guardian, il vaut mieux acheter le 24, voire acheter War of Kings directement.
Oui, ce sera plus
simple. Mais voilà. Si vous devez acheter ce numéro-là, et que vous n'avez pas lu les précédents, commencez par les épisodes des mini-séries, qui sont très abordables, je trouve, qui expliquent bien, en fait, le statu quo, donc, voire aller directement sur l'épisode de Nova, et voilà.
Bah, parfait. Donc, du très bon. comme toujours. Et puis on va te remercier, Sam, d'être venu faire le petit guest dans notre 50e épisode.
Bah, merci de m'avoir invité.
Mais de rien, de rien, c'est normal.
Et oui. C'était bon courage pour la suite.
Oui, il nous en reste encore un petit peu à enregistrer. Merci à toi, Sam.
Je t'en prie.
Et puis on se retrouve très bientôt dans un spécial.
Oui.
Hein, qui a déjà
on ne dira pas le thème.
Mais... qui a déjà été enregistré. Mais qui sortira après.
Voilà. Et il y en a un autre qui arrive bientôt.
Ouais, la semaine prochaine. Qu'on enregistre en tout cas. Pourquoi j'ai l'impression qu'on s'en sort jamais?
Parce qu'on s'en sort jamais. Après, on a fini un, qu'on en commence un autre.
C'est un petit peu comme les gardiens de la galaxie.
Ouais. C'est un peu ça. Ouais. On va peut-être changer l'appellation. Bien, on a fini avec le kiosque et on va attaquer maintenant la librairie. Monster X Factor. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de X-Factor en France dans les pages d'Astonishing X-Men. Si, c'est Astonishing X-Men Magazine, pardon.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Enfin, plus maintenant, puisque ouais, ça n'existe plus.
Voilà, c'était le dernier.
Donc on les retrouvera jamais, au fait, dans Astonishing X-Men.
Non, on les retrouvera dans X-Men Universe.
Et voilà.
Magazine à sortir le mois prochain. Alors, je ne sais pas s'il y en a le mois prochain, par contre. J'ai pas regardé encore. Ce sont les épisodes X-Factor. Alors attention, c'est un petit peu compliqué. X-Factor Volume 3, numéro 46 à 50. Puis, la série reprend sa numérotation d'origine et on a donc les épisodes 200 à 203. Et enfin, un one-shot Nation X X-Factor.
Et comme voilà. Ça faisait deux numéros anniversaires de suite. En plus, ça tombait bien.
Exactement, exactement. Au scénario, tout du long, c'est Peter David. Et au dessin, on a une alternance entre Valentine Delandro et Bing Canzino. Bing Canzino étant plutôt sur les parties 200 à 203 et Valentine Delandro sur le début. Et puis l'épisode 203, d'ailleurs, je crois qu'il va par Valentine Delandro. Alors, il a fallu se remettre dedans. Déjà, ça a été très 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 compliqué pour ma part.
Ouais, moi aussi, parce que ça fait un bail qu'on les a pu dans Asto, je crois que c'était depuis septembre.
Depuis cet été, ouais.
Ouais. Donc, on était en pleine intrigue, on était en plein arc. Alors en plus, pour les gens qui vont acheter ce Big Book, ils n'auront pas, au fait, d'arc complet, puisque le premier était déjà commencé dans Asto.
Bah si, ils auront un arc complet, ils auront l'arc 200 à 203 qui est complet.
Oui, non mais ils auront pas d'arc au pluriel, enfin je veux dire, ils auront tous les arcs ne sont pas complets quoi.
D'accord, ok, j'avais pas compris ça comme ça.
Oui, c'est enfin le premier en tout cas est totalement incomplet, puisque toute la première partie, l'arrivée de Madrox dans le temps, avec Leila Miller, etc. Tout ça c'est.
On va remettre un petit peu la situation. Jimmy Madrox avait quitté l'équipe, il errait un petit peu sur les routes, et puis il se retrouve. Enfin, il retrouve, ou plutôt c'est elle qui le retrouve, lui, Leila Miller, qui était toujours dans le futur, et qui l'amène avec elle dans le futur, à la rencontre des X-Men, si on peut les appeler comme ça, du futur, qui ont besoin de lui, car des mutants disparaissent pendant quelques secondes du temps, et puis réapparaissent comme ça, et donc ils se demandent un petit peu d'où ça vient. Donc Madrox va faire son enquête, et pendant ce temps-là, dans le présent, on a une espèce d'entité qui s'appelle Cortex, qui prend possession des gens, notamment des membres de X-Factor, pour tuer d'autres personnes.
Ouais.
Et on était là, à peu près. Et donc, on a toute cette partie avec Madrox qui fait son enquête dans le futur, avec Leila, qui tombe sur le Doom du futur, enfin, en tout cas, le Doom vieillissant, toujours dans le futur.
Et le Scott Summers du futur aussi.
Le Scott Summers du futur. Et puis, on a le reste de l'équipe contre Cortex, où on découvre enfin qui est ce Cortex. Dans le présent. Bon, on va éviter de trop spoiler les intrigues.
Ouais.
C'est relativement compliqué quand même. Je dirais même c'est très compliqué en fait.
En fait, oui, surtout toute l'intrigue avec comment c'est pas Drax, c'est
Guido.
Non, pas du tout. Non, le méchant là dans le futur, les sentinelles.
Ah oui, je me rappelle pas de son nom.
C'est le mec des il y a le nom de celui qui est dans le chapitre d'année.
Trask, tu veux dire?
Oui, mais c'est pas Trask.
Ah, Shaw.
C'est Shaw, voilà, c'est Shaw. Voilà. Donc et c'est Shaw à comprendre justement.
Putain, oui, c'est Shaw.
Oh putain. Oui. Donc voilà. Et au fait. À la lecture de cette fin d'arc, de cette seconde partie d'arc, en fait, on comprend tout ce qui s'y passe. Mais faut aussi dire que c'est du Peter David et c'est super drôle.
Il y a énormément de passages de folie, quoi, des dialogues monstrueux.
Oui, franchement, toutes les cinq pages, il y a une réplique de ouf. Il y a vraiment un truc très très bon. Et
moi, je dirais même, c'est toutes les deux trois pages, quoi.
Ouais, toutes les deux, trois pages. Et par exemple, la scène avec Guido dans la voiture avec Rictor, où il le questionne sur sa relation avec Shatterstar.
Qui sera une blague récurrente, hein, d'ailleurs,
Ouais,
tout au long.
énormément d'allusions à leur relation. Dans le futur, pareil, à un moment, la confrontation avec le coup de poing là, entre alors je sais plus qui provoque Doom, si
Ah,
c'est Rictor.
c'est Scott qui
Ah, c'est
provoque Doom.
Scott. Ouais.
Le
C'est
Scott
Scott
Scottsoners du
qui
futur,
provoque Doom et voilà, qui se prend une mandale, mais considérable, la mandale
oui.
du siècle.
Oui, il vole, ouais.
Et oui, voilà, il vole de très loin d'ailleurs.
Scott Summers a découvert des nouveaux pouvoirs mutants, il est capable de voler très loin.
Voilà, c'est ça. Et bref, il y a plein, 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 plein de choses, plein de gags comme ça qui viennent s'insérer dans
Je
cette
crois que
intrigue.
la réplique de Guido qui m'a fait le plus rire, c'est vers la fin, justement, quand il demande à Shatterstar s'il aime les films de gladiateurs. C'est, je crois, que celle qui m'a fait le plus rigoler de
Ah
toutes.
oui, en plus il lui demande, mais sans arrière-pensée, hein. C'est très
Si,
candidement.
si, si, puisqu'il regardait Gladiator avec
Oui, non, mais
Rictor.
ça, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il veut même pas faire la blague. Il dit ça
Ah
candidement,
si,
il
ah non,
demande.
non, non, je c'était
Ah si, moi
volontaire.
je pense. Ah
Et
moi.
quand Shatterstar lui dit oui, j'adore, il fait ça m'étonne pas. Voilà, c'est
Ouais.
justement ça qui m'a vraiment fait rire, quoi. Et Rictor qui fait mais arrête, c'est bon, quoi. C'est justement ça qui est très drôle, quoi. Autant la blague de Rictor que la blague de Guido, pardon, que la réaction de Rictor, qui sont monstrueuses. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ça aide, hein, pour alléger un peu la chose, parce que déjà, c'est compliqué. Puis il se passe comme des événements, assez dramatiques.
Et ben là, au fait, c'est dans cet arc-là qu'on comprend vraiment pourquoi, depuis le début, par exemple, Ella Miller semblait tout savoir.
C'est surtout dans l'arc d'après, en fait, qu'on comprend. C'est à la fin du 203
Ah,
qu'on le comprend.
peut-être.
Oui.
Ah, d'accord. Oui, non, mais enfin bon, en tout cas, c'est dans ce Big Book qu'on le comprend et on apprend vachement de choses sur elle. Et finalement, c'est vrai que depuis le début de la série, il y avait un mystère qui l'entourait. Et là, enfin, on a toutes les clés pour avoir la réponse, quoi.
On a le deuxième arc qui commence vraiment différemment. L'équipe a changé. Elle s'est délocalisée. Elle est retournée, elle a quitté Détroit pour retourner à New York. Tous les membres de l'équipe ne sont pas allés à New York, d'ailleurs. Et donc, on commence l'histoire sur Franklin et Valeria, qui vont demander de l'aide à X-Factor, car la femme invisible a disparu.
Et
Ce
là,
qui
ça
fait
en...
rire tout le monde, d'ailleurs.
Voilà. D'ailleurs, ça donne lieu encore à une scène comique où Valeria, ou alors je crois que c'est Franklin ou Valeria, je sais plus.
Non, c'est
L'un
Valeria.
des Valeria qui lui explique que ce n'est pas
Ce n'est pas de l'ironie.
oui, ce n'est pas de l'ironie, voilà. C'est pas de l'ironie et de dire que la femme invisible a disparu et que c'est un paradoxe, je crois. Elle lui explique. Et justement, après, il y a tout plein de dialogues comiques où ils demandent tous si elle fait de l'ironie ou pas. Et voilà quoi. Donc enfin, c'est super marrant, quoi. C'est super marrant à lire. Bon,
Et
voilà, ça fait partie
finalement,
vraiment de la pub de Peter David, quoi.
bien sûr, ouais. Mais finalement, cet arc-là a des, disons que, on peut pas vraiment comprendre cet arc-là si on n'a pas lu l'arc précédent, quoi. Les deux arcs s'entremêlent, en quelque sorte.
Oui, puisque enfin le fil conducteur, c'est toujours Leila Miller. Le rôle de Leila Miller. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle va revenir dans l'équipe? Et puis donc, comme tu disais, on en apprend vraiment beaucoup plus sur ses origines
Ah
et
oui, pas du tout,
pourquoi elle
hein.
a ce sens de pourquoi est-ce qu'elle sait tout au fait? Et sait-elle vraiment tout? Est-ce que c'est vraiment son pouvoir?
Et puis il y a quand même une autre histoire, celle de Monette et de son père.
Oui, alors, histoire un peu laissée en suspens.
Oui, qui prendra, enfin qui va continuer, je pense, dans les prochains épisodes,
Ah
notamment le
voilà.
prochain qui est vraiment centré sur Monette. Mais
On retrouve Sirène aussi. Sirène qui est partie se ressourcer. Et d'ailleurs, le backup, c'était l'histoire avec le double de Madrox en prêtre,
oui.
qui retrouve au fait Sirène sur la tombe de son père. Comme par hasard, d'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Un joyeux hasard. Voilà, donc une petite histoire qui se trouve à la fin en fait du Big Book, qu'ils ont mis à la fin, qui est sympathique, quoi.
Qui était un backup au numéro 200, en fait.
Voilà, c'est
C'est bien
ça.
parce qu'ils ont tout publié, quoi.
C'est encore une fois, c'est assez drôle tout en étant assez dramatique. Mais Peter David arrive à le rendre vraiment plaisant à lire.
Voilà. Le
Quoi
problème, c'est
d'autre?
qu'on peut pas vraiment révéler quoi que ce soit parce qu'il se passe
Non.
tellement de choses
Ah oui, non, mais c'est
que.
vraiment tellement dense, c'est, bah, de toute façon, c'est
Et
un
puis c'est
monster
tellement
qui
beau.
fait, il y a combien d'épisodes, du coup,
Il y en a 10, mais deux
Et deux
doubles,
doubles.
donc
Deux
ça fait
doubles.
l'équivalent de 12, hein, un Monster classique.
Ouais, deux doubles, et il y a ce one shot aussi, Nation X.
Ce Nation X, X-Factor, les membres d'X-Factor sont invités sur Utopia à la demande de Scott Summers,
Ouais.
qui espère qu'ils vont élire domicile avec eux sur Utopia. Et
Voilà.
bon, on voit les différents membres de l'équipe
Qui ont des réactions assez
voilà,
différentes, en fait.
qui voilà, c'est surtout le dialogue entre Scott et Jamie
Et Madrox.
Maddox qui va déterminer l'issue de la chose, mais tous les anciens membres d'X-Factor retrouvent des anciennes connaissances et s'amusent tous avec différentes choses quoi. On a par exemple Guido qui va se faire une sorte de football américain à pouvoir hein, avec Rock Slide où ils vont se bastonner, Dazzler qui
Qui
retrouve
retrouve
Longshot
ouais.
et voilà. Et donc notre guest Sam de tout à l'heure m'a dit qu'il trouvait cette Dazzler beaucoup mieux écrite que celle qu'on a eue dans le X-Men de début de mois dans son one shot.
Écoute, moi je trouve que de toutes les histoires qu'on a eues sur Utopia, sur Nation X, c'est de loin la meilleure. Parce que c'est celle qui vraiment... En fait, Peter David arrive vraiment à analyser la situation et à vraiment, en une seule histoire, à vraiment à peser tous les pour et les contre, au fait. À mettre Cyclope face à ses propres contradictions. Et vraiment, les dialogues entre les personnages décrivent bien, au fait, le nouveau statu quo et fait prendre conscience pleinement de la problématique actuelle, quoi, des X-Men. Est-ce que s'être retiré sur une île, est-ce que ça n'a pas posé problème? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas finalement faire ce que voulait Magneto depuis le début, etc. Et franchement, là, c'est vraiment super bien fait, quoi, cet épisode. Et c'est, à mon sens, le plus intéressant depuis le début d'Utopia.
On a aussi une petite histoire avec une espèce d'ennemi. Enfin, c'est réglé, c'est expédié assez vite. Je pense que cette personne avec son livre là, on en réentendra parler, en tout cas avec Peter David.
Ouais, peut-être, ouais.
Mais bon, enfin,
Je sais pas, mais
pour le moment, ça n'a pas grande importance.
Non, ça c'était vraiment le plus accessoire, j'ai trouvé, de l'épisode, justement. Ce personnage-là ne m'a pas vraiment intéressé, au contraire même. Je l'ai trouvé un peu... En fait, à la limite, elle n'aurait pas été là, puisque c'est une femme, ce personnage mystère, bah, ça m'aurait pas dérangé du tout, quoi, au
Et je
contraire.
pense que c'était pour nous montrer que les X-Men tous confondus, hein, X-Factor, etc., travaillent tous ensemble main dans la main quand il y a une crise, et puis le reste du temps, voilà quoi.
Oui, puis c'était pour faire aussi une analogie avec un autre temps. Et bon, c'est assez intéressant, mais franchement, il aurait même pu se contenter, enfin, Pad, comme on l'appelle aux États-Unis, aurait pu se contenter d'écrire l'histoire avec juste la rencontre entre les différents, enfin, les retrouvailles entre les différents mutants, et ça aurait été très bien aussi, quoi. Vraiment, une très très bonne histoire, quoi.
Très 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 bonne lecture, à réserver par contre aux gens qui aiment les problèmes de temps, les problèmes de time stream en fait. Puisque là encore une
Oui,
fois,
enfin,
il y a
dans
beaucoup
l'ensemble
de...
du Monster, c'est vrai qu'on est vraiment là-dedans. À part peut-être dans l'arc sur les quatre fantastiques, quoique.
Quoique.
Quoique. Quoique, oui.
En revanche, la bonne idée de Peter David, c'est de remettre X-Factor à New York, enfin de les mettre à New York, puisque bah, les X-Men ont déserté New York, sont en Californie, maintenant sur Utopia. Envoyer les X-Factor à New York, c'est là où il y aura le plus de choses intéressantes, puisque c'est là où il y a la majorité des super-héros. Donc, ils s'ouvrent la porte à plein d'histoires possibles, et ils commencent bien en faisant intervenir les Quatre Fantastiques. Donc, on peut rêver de n'importe quel guest dans la suite de la série.
Et en tout cas, quelle bonne série, toujours.
Quelle bonne série, ouais. Et il me tarde de la retrouver au rythme mensuel plutôt qu'au rythme de 12 épisodes d'un coup, peut-être, mais qu'il a fallu attendre un peu plus de 6 mois pour avoir, quoi.
Ouais, et en tout cas, très très bonne lecture, et quel plaisir donc d'en lire justement autant d'affilée. Donc même si bah, ça a un prix, hein, je crois que c'est 29, je vais pas dire de
29, ouais.
bêtises.
29 euros.
Je crois que c'est 29 euros quand même, mais c'est un Monster qui les vaut largement, parce que c'est très 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 bon. On peut le relire même avec plaisir, tellement c'est bon, quoi.
Par contre, nouveau lecteur, désolé, mais ce n'est pas pour vous.
Ouais.
Non, c'est...
Oui, enfin, à moins de connaître un petit peu l'univers des mutants et X-Factor un peu, quoi, déjà, d'avoir déjà une
Oui,
idée
bah
de
oui.
qui est qui.
Nouveau lecteur, c'est pas pour vous. Clairement.
Ouais.
Clairement, on
Oui,
peut
enfin,
pas.
ça dépend de nouveau ou
Disons que
nouveau ayant déjà lu un petit peu de X-Men.
commencer la série X-Factor là-dessus, ce serait un mauvais choix.
Bah oui, bon, parce que, en plus, ça spoil vraiment énormément de choses. C'est vrai que ce serait raté. Enfin, il y avait tellement des épisodes excellents que. Mais en même temps, pour la lire, voilà. Préférez les TPB américains à ce moment-là si l'anglais ne vous fait pas peur, parce que pour la retrouver en français, c'était
Bah,
dans les
c'est le
Asto
kiosque. Ouais.
et voilà quoi. Ça risque d'être
Oui,
très très
c'est.
compliqué. Surtout qu'il y avait des numéros d'Asto où il n'y avait pas la série. Donc à moins de vous faire une collection avec des trous, ce
Ça
sera
va
un peu
demander
dommage.
quelques recherches en tout cas, ouais, pour
En
arriver à les faire en
plus,
français.
ouais.
Voilà, donc une très bonne pioche.
Ah oui, non mais alors
Voilà,
ce mois-ci, on est gâté.
une des meilleures lectures
Et
du
c'est pas
mois,
terminé. C'est pas
et
terminé.
c'est pas terminé.